texte de la protection de l'enfant et de la famille, numéro 1 de l'assurance scolaire.
Vous êtes bien sur Inter, il est midi. Laetitia Gaillet pour vous informer.
Près de 2000 éclairs détectés. L'épisode orageux d'hier soir a été d'une particulière violence. Il y a eu des pluies intenses sur l'axe Normandie-Bourgogne, couplées à de la grêle. Dans l'Yonne, par exemple, les dégâts sont importants. Et on pense aussi aux vignes, notamment à Chablis. Marie-Josée Vaillant, la maire de Chablis, avec nos confrères de France Info.
Il n'y a pas une commune du Chablisien qui a été épargnée. On n'a rien vu venir parce que le temps n'était pas lourd. D'un seul coup, la grêle est arrivée, presque même avant la pluie. Ça a été pendant 10-15 minutes à marteler partout. Mais ce qui est le plus grave, c'est les vignes qui ont été touchées, mais de façon très très forte. On ne peut pas, au jour d'aujourd'hui, à ce moment précis, dire ce qu'il en reste, parce que déjà, il y a les feuilles qui sont par terre. Et puis après, on me disait ce matin que selon comment les vignes avaient été déjà travaillées, c'est-à-dire baissées ou pas, si elles avaient pu suivre le vent, comment elles étaient exposées. On allait voir dans les jours qui vont venir les dégâts, parce que là, c'est à vif. Les gens sont traumatisés par ce qui s'est passé, mais après, on va pouvoir étudier en fait les vrais dégâts. Mais de toute façon, ça sera une année catastrophique, et c'est pas que une année, parce que 2025 et 2026, c'est une année où il n'y aura pas grand-chose et une année qui va être encore minorée par des bois abîmés par la grêle.
Il y a les dégâts donc en Bourgogne, à Courmelles, dans l'Aisne. L'épisode orageux a entraîné une coulée de boue. Elle s'est engouffrée dans un secteur d'habitation et a touché plus particulièrement une maison. Une femme de 57 ans est morte. Son conjoint était blessé, mais il a pu sortir. Le gouvernement veut dissoudre Rempart. C'est un groupuscule lyonnais d'ultra-droite. Gérald Darmanin a engagé la procédure de dissolution. C'est ce que réclamait Grégory Doucet, le maire écologiste de Lyon, qui avait adressé plusieurs courriers en ce sens depuis février au ministre de l'Intérieur. Depuis une heure et demie maintenant, on débat à Sciences Po Paris sur le conflit au Proche-Orient. Un débat organisé par la direction de l'établissement en réponse à la mobilisation des étudiants et des militants et sympathisants du comité Palestine. Le débat doit durer jusqu'à midi et demi. Il est réservé exclusivement aux étudiants et salariés de Sciences Po Paris. Pas d'accès aux médias. Depuis plusieurs jours, les manifestations pro-palestiniennes se sont multipliées en France, mais aussi à l'étranger, notamment aux États-Unis, où elles ont été émaillées de violences diverses. En France, quelques étudiants bloquaient encore ce matin les accès à un site universitaire de Saint-Étienne dans la Loire. Quand la campagne pour les élections européennes de juin tourne à la guerre des gauches irréconciliables, ça s'est passé à Saint-Étienne hier dans la Loire. Raphaël Glucksmann a été empêché de rejoindre la manifestation du 1er mai. Le patron du PS dans la Loire dénonce aujourd'hui l'attitude de la France insoumise. Chez les écologistes aussi, il y a des verts irréconciliables. Les écologistes ex-Europe Écologie Les Verts doivent par exemple faire face avec de nombreuses listes aux différentes teintes de vert, de quoi créer une certaine cacophonie dans cette campagne, Antoine Geoffin.
Jean-Marc Governatori, tête de liste d'écologie au centre, était candidat à la primaire des écologistes, ex-EELV, en 2022, et deux ans plus tard, il les attaque.
L'écologie au centre que je représente est dans le monde réel, EELV est manifestement dans le monde parallèle, puisque eux, par exemple, ils veulent recevoir tous les immigrés, ce qui est impossible. EELV est pour la voiture électrique, alors que c'est une offense à l'environnement. Vous savez qu'une voiture électrique, c'est une batterie électrique, donc du manganèse, du cobalt, du nickel, on dépend de l'extérieur et en plus ça pollue pour l'extraire.
Ce sera le premier scrutin pour écologie positive et territoire mené par Yann Verling, favorable à l'énergie nucléaire. Il revendique une écologie anti-nup.
Je ne veux pas d'une écologie qui s'enferme dans l'extrême gauche. Je veux qu'on soit en capacité de dialoguer avec toutes les forces politiques en dehors des extrêmes, ni RN, ni LFI. La posture des Verts, elle ne permet pas ce dialogue, elle ne permet pas de construire ces compromis.
Equinox pousse aussi pour une écologie non dogmatique avec du nucléaire et moins de normes, selon sa tête de liste, Marine Chollet.
Aujourd'hui, lorsque vous voulez installer des panneaux solaires sur votre toiture, sur votre copropriété, vous avez un ensemble de documents et de normes qui s'accumulent, notamment en partie dû à des financements européens. Et donc, du coup, nous, on appelle à simplifier ce mécanisme, à simplifier cette paperasse pour aller plus rapidement dans ces objectifs-là.
Il y a 53 listes se réclamaient de l'écologie et seul EELV avait réussi à avoir des élus.
Et les élections européennes en France auront lieu, je le rappelle, le dimanche 9 juin. Un élu mis en examen devrait être suspendu de ses fonctions. L'association Anticorruption donc réclame aujourd'hui la suspension du maire de Barcarès qui a été mis en examen mardi pour corruption, favoritisme mais aussi prise illégale d'intérêt. Ça fait suite à l'ouverture d'une information judiciaire concernant la gestion des marchés publics relatifs au village de Noël sur la commune de 2012 à 2024. On en dansera dans la deuxième partie du 13-14 avec le retour des bals en France et le grand bal qui aura lieu à la Philharmonie de Paris du 3 au 5 mai prochain. À l'occasion du printemps du bal, Jérôme Calais recevra donc Vincent Moon. C'est l'un des trois concepteurs du printemps du bal et Aïna Tullier, musicienne du groupe Clica Drona. Vos questions, vos souvenirs et pourquoi pas témoignages de bal. 01 45 24 7000 pour le standard et l'onglet réagir de l'appli France Inter. France Inter où il est 12h05.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter.
Ce mardi,
je m'appelle Zao.
Faites toujours beau au-dessus des nuages.
Zao de Sagazan, la voix de la nouvelle génération.
Je suis et sûrement pas l'inverse.
Accompagné par l'Orchestre Philharmonique de Radio France sous la direction de Dylan Corley.
Dis-moi ce je t'aime.
Un concert unique en direct et en public sur France Inter ce mardi à partir de 20h.
France Inter, partenaire de La Fleur de Buriti, un film de René Nader Messora et Joao Salavizza. Guidés par leurs rites ancestraux et leur amour de la nature, le peuple indigène Crao ne cesse d'inventer de nouvelles formes de résistance. À travers les yeux de sa fille, Pat Pro va parcourir trois époques clés de l'histoire de son peuple. Un récit vibrant et engagé au cœur de la forêt brésilienne. La Fleur de Buriti, actuellement au cinéma, un film France Inter.
La bande originale, deuxième partie avec Nagui et compagnie, ben c'est maintenant sur Inter.
Merci Laetitia Gaillet, retour de l'info à 13h avec la rédaction et avec vous toute l'après-midi, à tout à l'heure. Cadeau de vie, Lisa Delmoitier, Mélodie Fontaine, Tanguy Pastureau, Daniel Morin.
Coucou Lisa.
Et nos invités, Mélanie Bernier et Max Boublil.
Bravo. Merci. Bravo, bravo.
Au cinéma, entouré de Claudia Tagbo, de Steve Tiencheux, de Malik Amraoui, de Gérard Darmon et Gérard Jugnot. Entre autres, le casting est long, je vous l'ai déjà donné tout à l'heure, mais faites-moi confiance, ça joue grave et c'est extrêmement drôle. Tous les clichés sont attaqués. Il y a la religion, évidemment, il y a les rapports homme-femme, il y a la perversion de l'argent, il y a même des bagarres avec un nain. Alors, quand je dis
ouais,
ça, ça veut rien dire. Non mais c'est ça.
Ouais.
Tu vas quand même pas te battre avec un nain, si tu dis mais
il y va quoi.
Il y va. Ouais. Non c'est et c'est ça qui est bien, c'est-à-dire que
là,
c'est le côté
de
nos limites.
Ouais,
voilà.
Ouais. Après on se permet ça. Le blasphème, ils se mettaient en limite le blasphème évidemment. Ils ont écrit à trois mains avec Walid Afkir, John Elijam et Greg Boutboul. Donc il y a les trois qui écrivaient chacun un peu leur partie. Donc vraiment, mais il s'est mis en limite le réalisateur. Il voulait pas que ça soit blasphématoire et pas blessant. Voilà. Mais après, on rit un peu de tout.
Absolument. Neuilly-Poissy au cinéma le 8 mai. On en parle jusqu'à 12h30 avec nos invités. Voici Tanguy Pastureau.
Hier, après l'émission, je sors de la radio. Les vigiles me font une haie d'honneur. Je leur dis arrêtez. Ils me répondent oui, mais enfin, on a écouté la chronique. Vous êtes trop fort. Et moi, la routine, ça me tue. Le succès, l'argent, les fans, ça va deux minutes, mais ensuite, tu t'ennuies. La 20e fois que tu fraudes le fisc, tu tournes en rond, me disiez-vous, Nagui, tout à l'heure dans l'ascenseur. Tandis que les autres personnes présentes regardaient vos chaussures en disant je comprends pas le délire. Donc, je me dis ce qu'il me faudrait, c'est un truc un peu sulfureux qui me sorte du quotidien. Mais quoi? Le bondage? Non, je déteste être ligoté. Je suis végétarien, donc ressembler à un gigot, ça me tente pas. Le à gauche, non, tout le monde fait ça ici et j'ai jamais vu aussi peu de gens épanouis. Et là, je m'approche de mon scooter, cet engin qui me permet de voler d'un rendez-vous où on me dit ça va pas être possible, un rendez-vous où on me dit personne ici croit à ce projet. Et je constate que coincé dans la selle, il y a un petit carton publicitaire. Je le retire, c'est pour Ten Ten, un salon de massage du quartier. C'est entre 99 et Double 11, quoi. Hein, là, je me dis pourquoi pas un massage. C'est un peu chaud, un peu sulfureux, mais il y a un hic, c'est que je suis pas tactile. Pas du tout, même. Tellement pas que sous la douche, je me recouvre de gel douche et je me frotte contre le carrelage mural pour étaler. Ce qui fait que j'ai développé une forte intimité avec ce carrelage. Je le tutoie d'ailleurs. Hein, mon psy m'a dit qu'il n'y avait pas de souci avec ça, tout en composant un numéro qui a fait que 5 minutes plus tard, des gens sont venus me chercher. Et bon, je ne suis pas contre les thalasso, mais là, les jets d'eau étaient un peu forts. Bref, je regarde les autres scooters, eux aussi ont le carton publicitaire. Donc je me dis, si j'y vais, en plus, je vais me faire masser à côté d'autres gens de Radio France. Si c'est pour causer philosophe de la Grèce antique avec Adèle Von Rett en serviette. Je veux dire, tu parles d'une détente, quoi. Et là, je regarde de nouveau le carton, il y a une photo dessus, celle d'une jeune femme asiatique prise de trois quarts, mais qui tourne la tête vers la
pareil, en coulant un regard plus tentant qu'un buffet de petit-déj en hôtel club quand le groupe d'Américains qui est dans l'hôtel n'est pas encore descendu tout bouffé. J'observe cette femme, elle a l'air heureuse, zen. On dirait Marine Le Pen qui, à chaque attaque au couteau, observe la cote du RN monter mécaniquement. Je me dis, est-ce une cliente, auquel cas le massage doit faire beaucoup de bien, ou une masseuse, auquel cas elle adore son job. Et moi, j'ai pas l'habitude. Parce que quand j'arrive ici, je vois Daniel en train de bouffer sa barbe et Lisa Delmoitier en pleurs à l'idée d'avoir un jour à revenir en Belgique. Cette dame en photo est une énigme. Et la sensualité qui se dégage de son être, un leurre. Parce que je connais la réalité. C'est qu'en entrant, il y aura un mec à la peau grasse qui va te plaquer contre une table de massage et t'écraser le corps en criant « C'est bien comme ça !» Et comme dans nos têtes de racistes, on se dit que tous les Asiatiques pratiquent le kung-fu. On répond « C'est vraiment nickel hein !» Alors que le mec appuie tellement qu'on a un rein qui a giclé de notre bide et est parti s'écraser sur le mur, un poster de la baie d'un œil. En fait, ce que fait Tenten Massage, c'est ce qu'on fait depuis toujours, utiliser l'image de la femme pour attirer les bons hommes. Madame Tenten, elle semble nous dire « Mes mains, mon petit coco, sont la seule autre voie vers le paradis avec le fait de se prendre un bus. » Ça me rappelle les boîtes de nuit, vous savez, quand j'étais jeune, qui faisaient entrée gratuite pour les filles. Elles trouvaient ça super, mais en fait, elles étaient là-bas. Et nous, on payait 15 balles juste pour pouvoir être avec elles. Jamais un homme n'est allé en boîte pour danser. Ça n'existe pas. Les hommes détestent danser. Camille Combal sur Danse avec les Stars, entre chaque salsa, il part gerber dans sa loge. D'accord ? On y allait pour les filles. Le funk, ça a toujours été un prétexte. Le funk, c'est l'histoire de toutes les relations sexuelles qui ne se sont pas déroulées. Music and Nights, ta gueule. On s'est fait avoir. On s'est fait avoir. Et moi, tout ça, c'est fini. C'est pas avec une photo de jeune femme qu'on va m'arnaquer. Pas moi, Madame Tenten, que je me suis dit. Puis j'ai retourné le carton. Et là, il y a la liste des massages. Alors, il y a le chinois, 50 euros l'heure. Le thaïlandais, 60 euros. Les chinois sont toujours moins chers. Voyez. Le japonais, 60 euros. Ça doit être un massage formidable parce que les japonais, professionnellement, se mettent une pression folle. Hein. Il y en a qui se suicident après avoir raté un PowerPoint. Hein, nous, on a Bruno Le Maire qui a coulé le budget de la France et qui se dit non, je suis au top. Voilà, bon. Il y a le massage indien. Il est précisé entre parenthèses, huile chaude. Alors, j'espère pas trop chaude parce qu'il y a des soldats au Moyen-Âge, hein, partis à l'assaut d'un château fort, bon, qui ont vécu ça, ils sont décédés. L'indien, c'est plus cher, 65 euros. Ah oui. Bah, il faut faire chauffer l'huile, bon, dépense d'énergie. Peut-être que pour 50 euros, on a de l'huile froide, je sais pas. Ou pour 30 euros, juste du vinaigre et du sel. Enfin, bon. Je continue ma lecture du carton. Le massage tantrique, c'est 75 euros. Et là, je me dis tantrique, le terme est tendancieux. Et puis, je le connais pas trop. Je regarde sur le net, je vérifie. Il s'agit d'un massage des pieds, du ventre, du dos, des parties génitales sans différenciation. Après, je suis pas expert, mais si on est déjà tendu des parties génitales, je suis pas persuadé que se les faire masser va les détendre, franchement. Enfin, non, mais le massage tantrique, c'est vivre le moment sans l'érotiser. Ce qui est pas simple quand la personne vous masse à cet endroit-là. Hein, ou alors il faut se dire, il s'agit de mon coude. C'est mon coude, c'est mon coude. Je veux dire, par rapport au massage chinois, le tantrique est à 25 euros de plus à l'heure. Ça fait 12,50 euros le testicule. Et c'est assez cher pour ces tout petits trucs-là. Hein, je veux dire, c'est pas en leur donnant une valeur marchande qu'on va faire tomber le patriarcat. Voilà, c'est que mon avis. Hein. Bon, sinon 120 euros le massage à quatre mains, hein, ce qui signifie que Madame Tenten a soit une amie, soit une malformation. Bon, tout ça pour vous dire que Madame Tenten ne m'a pas eu avec son regard coulé là et son sourire mutin.
Si,
et pourtant, je suis assez tenté par le massage royal à 130 euros. Si ça fait comme le couscous, hein, tu te retrouves avec sur toi de l'agneau et du poulet, c'est quand même pas mal, ça doit ressembler à un spectacle des Baudins, quoi. Bon, allez, je voulais tester. Je vous laisse tester Tenten.
Non, vas-y. Ah,
franchement, je suis pas tactile.
Non, vas-y, Tanguy. Vas-y, raconte-nous.
Ouais, très envie d'y aller.
À quelle heure il va?
À quelle heure va chez Tenten?
Non, il faut qu'il y en ait un qui aille, quoi. Ce serait trop drôle.
Ce sera Daniel.
Ok. Et le 3 octobre prochain au théâtre Tristan Bernard, c'est le nouveau spectacle de Tanguy Pastureau.
Très bien. Neuilly-Poissy, c'est au cinéma avec cette musique, entre autres.
C'est la musique de fin, ça.
Ouais.
C'est vrai, à chaque fois je me moque du rien, je dis à la fin, t'as mis une musique, on dirait un jeu de TF1.
Moi je pensais plus à Loft Story.
Oui, un vieux Loft Story, exactement.
Exactement.
Attends, bouge pas.
Ils sont deux. 24 caméras les observent.
C'est ça, exactement.
Avec des secrets de Michal, Steven, Juliane.
Alors c'est quoi, c'est quand ça? C'est encore Diego?
Non, c'est quand il rentre, c'est quand ça, on se
c'est
retrouve.
Lisa et Daniel.
Ah, c'est Lisa et Daniel, c'est le thème de la retrouvaille. La retrouvaille, ça fait vraiment pas cool.
L'entraînement, c'était ça?
Ça, j'adore.
Ah oui, c'est bien ça.
J'ai plein. C'est un genre de 113 un peu.
Neuilly-Poissy, Mélanie Bernier, Max Boublil à l'affiche de cette comédie, première comédie de Grégory Boutboul au cinéma le 8 mai. D'autres événements culturels.
Oui. On cherche un film. Pendant son tournage, l'équipe a été droguée à son insu. Le réalisateur a même souffert.
Les Bronzés 3.
Film tourné en 97.
Titanic.
Absolument.
Ah, ouais. Quoi?
Titanic. Explication.
Je sais tout sur tout.
Bah raconte.
Non, mais je 97, ça tombait dans les dates. Ouais. Je me suis dit pourquoi pas. Intoxication alimentaire.
Alors on sait pas le fin mot de l'histoire. Ils ont soupçonné un temps les palourdes, les moules ingérées.
Bah oui.
Ils ont soupçonné un temps un membre de l'équipe qui aurait pu droguer les 80 personnes qui ont été, certaines ont été hospitalisées quand même. Ah, alors ouais. L'idée c'est qu'ils ont été intoxiqués avec une sorte de psychotrope hallucinant. Ce qui fait qu'attention, le spectacle devait être absolument fou. Il y avait des gens qui étaient pris de nausées, de vomissements. À côté, il y en a d'autres qui étaient en fou rire, qui faisaient la chenille. Donc tout le monde était complètement défoncé. James Cameron.
On voit pas ça dans le film.
Non. Normalement, ça, j'appelle ça une bonne soirée, moi.
En même temps, DiCaprio, il se bat pas trop pour rester sur la planche non plus. On voit qu'il est pas bien.
Alors, Leonardo et Kate n'étaient pas là ce jour-là du tournage.
Ils avaient un room service.
C'était pas des scènes où ils étaient présents, mais et James Cameron s'est fait enfoncer un stylo dans le visage et il était en train de saigner et de rire au moment où... donc ça arrive, ça a pleuré, ça
mais
a vomi.
Comment c'est ça?
Pardon?
Comment on le sait aujourd'hui seulement?
C'est Madame Temtem.
C'est Madame Temtem.
Pourquoi vous nous racontez ça?
C'est James Cameron qui l'a avoué ou c'est...
C'est James Cameron qui l'a raconté au moment où, tu sais, il a commencé à livrer des anecdotes de tournage.
Ah, d'accord.
Il a retrouvé le stylo la semaine dernière. Ah, ça joue droit.
Je vais vous demander à chacun un souvenir d'un tournage qui est parti un peu en vrille ou qui a un peu mal tourné. Dans la joie ou moins dans la joie?
T'as quoi, toi?
Je sais pas, j'ai un souvenir d'un film de Tony Marshall avec Nathalie Baye et Edouard Baird, et c'était vraiment très très compliqué. À la fin, je crois qu'il y a même un décor qui a brûlé ou qui a été inondé. Enfin, c'est franchement, ce tournage était c'était galère sur galère sur galère.
Comment jouer, mais la question est valable pour les deux, comment jouer quand on n'aime pas son partenaire? Comment faire? Comment se
ça arrive
forcer?
ça peut arriver, ça peut arriver.
Nous, ça nous arrive tous les jours.
Oui, j'imagine.
C'est comme les gens qui bossent avec un collègue. C'est ce que je dis. Oui, mais c'est compliqué.
Sauf que au cinéma, il y a des scènes où on s'embrasse.
Mais parfois, ça fait des super amants, deux personnes qui se détestent. Ça va faire un truc. Ouais. Ça va créer une tension qui fait que tu dis putain, les deux, on adore les voir ensemble.
Moi, je trouve qu'au final, parfois, parfois, c'est pas parce qu'il y a une alchimie de ouf qu'elle ne se passe pas à l'image, et à l'inverse, parfois sur les tournages, il y a une alchimie, etc., et qui pour autant ne se retrouve pas à l'image. Je trouve que ça veut... En fait, c'est assez étonnant. Même parfois, j'ai parfois tourné avec des acteurs que je trouvais pas très bons sur le plateau, et une fois montés, ils sont exceptionnels, et à l'inverse...
Le film.
Non, l'acteur.
Oui. Voilà. Et donc, à l'inverse, des comédiens où c'était un peu la coqueluche sur le tournage, où on disait, oh là là, il est génial. Et une fois que le film
est monté,
j'osais même plus dire le mot, du coup, en fait, il n'y a pas de présence.
Alors qu'au théâtre, c'est totalement autre chose.
Ah bah ouais, mais au théâtre, c'est direct.
On ne triche pas. Leïla ?
Oui, une autre question. Oui. On parle d'une série, où l'un des personnages a été tué par les scénaristes après 35 saisons.
Ah, bah ça doit être Les Feux de l'amour, un truc comme ça.
Non. C'est une série créée en 89, multi-récompensée.
Les Simpsons.
Absolument, bravo.
C'est
beau,
non ?
Bravo. 89. Par le même créateur que Futurama. Ouais. C'est le pilier de barre, Larry, qui a été tué.
Je l'aimais bien, Larry, moi.
En fait, il faut tuer les gens à un moment, je pense.
Toujours à un moment, il faut tuer les gens.
Parce que ça donne lieu à une scène ensuite où Homer et un de ses camarades partent dans l'objectif d'aller disperser les cendres, et ils se rendent compte qu'il n'avait pas vraiment connu tant que ça. Donc voilà, Larry est mort.
Parce que la voix est morte. Non,
c'est pas ça. Je me suis demandé.
Peut-être que c'est lié à ça, mais en tout cas, il est mort. Ce personnage-là est mort dans Les Simpsons. C'est quoi votre série qui a bercé votre adolescence et âge adulte?
J'adore moi, Sous le Soleil. Hein.
C'est vrai, tu regardais Sous le Soleil? Tu m'as pas vu dans Sous le Soleil?
Sous le Soleil, j'ai regardé énorme.
C'est vrai?
Ouais.
Moi aussi.
Toi aussi? Ah bah oui.
Tu regardais Sous le Soleil?
Mais moi je suis allé draguer ma femme.
Ah mais oui, c'est vrai. C'est
pour ça que tu regardes.
Mais oui.
Tu m'étonnes.
C'était un vivier d'acteurs, finalement.
De bons acteurs.
Moi j'ai dragué quelqu'un sur Derrick, on n'a pas eu la même relation.
Un néo-nazi, non ?
Un peu direct.
Non, mais nous, c'est quand même très Urgence, Melrose Place, Beverly Hills.
Moi, non. C'est formidable.
Art les cœurs à vif. Enfin, ouais, moi, j'ai été baignée.
Les années collège.
Non, mais il y avait.
Non, les années collège. Frère,
il a 75 ans.
Les années collège,
Attends, mais il y avait. Il y avait Will Smith dans.
Non, le Prince de Bel-Air.
Moi, j'ai adoré le Prince de Bel-Air. Voilà, Prince de Bel-Air, c'est mon enfance. Prince de Bel-Air, j'aimais trop. Il était trop cool.
Et Brad Pitt aussi a fait des séries comme ça, des sitcoms.
Il n'est pas apparu dans Friends à un moment, Brad Pitt.
Oui, mais ça, c'est un guest.
Ça, c'était un guest.
Friends, énorme série.
Friends.
Mais moi, Johnny Depp, je ne sais plus, il y en avait un des deux qui avait été dans une sitcom.
Ah, c'était trop bien!
C'est Johnny Depp.
21 Jump Street. C'était trop bien, 21 Jump Street.
Donc on avait passé Reeves aussi.
Et Leonardo DiCaprio a commencé dans Quoi de Neuf, Docteur?
Exact, exact.
Mais non,
exact.
Exact. 11 ou 12 ans, ouais.
Non, mais ce qui me rassure, c'est qu'on a passé des heures et des heures devant la télévision. Oui. Et quand on incrimine les mômes maintenant, parce qu'ils passent beaucoup de temps devant un écran, on est un peu.
Ouais, surtout quand on incrimine. Ce que je voulais dire, c'est ces séries qui sont souvent décriées comme étant mal jouées, justement mal interprétées. Il y avait des castings de ouf.
Bah oui.
Je regarde. Je pense aussi à Laurent.
J'en suis là, bref. Vivant,
Laurent Lafitte qui était dans Casse Mannequin et qui était à la Comédie Française, donc ça ne veut rien dire.
Non, mais les débuts de chacun, c'est ça qui est génial aussi dans une carrière, c'est qu'il y a, c'est vraiment un métier où il y a zéro loi.
Bah, Guillaume Canet a commencé en faisant de la pub pour Hollywood Chewing-Gum, me semble-t-il, les premiers tournages qu'il avait fait aussi.
Faut travailler en vrai, donc c'est ça. comme on peut et avec les clés d'entrée qu'on a.
Absolument. On vous retrouvera pour parler de l'avenir, Mélanie Bernier, dans il faut dire Burnout ou Burnout.
Burnout. J'ai pas encore demandé comment ça devait se dire. Oui, c'est une série.
Manu Payet et Guillaume Labbé.
Ah, vous dites Payet, vous?
Ouais. Bah oui. Il veut ça.
Ça se dit comme ça, surtout.
Ah oui, je ne savais pas. Moi, je disais.
Par contre, on dit Guillaume Labbé, pas la bête.
Oh, ça dépend.
Ouais, il y a Guillaume Labbé, Manu Payet, Antoine Louis, Vincent Payet. Oh là là, pardon. Vincent Hénène, enfin Ariane Mourier, tout ça. C'est une série réalisée par Noémie Saglio et Olivier Rosenberg pour Netflix. Mais ça, c'est à mon avis d'ici un an.
Et ah bon?
Ouais.
D'accord.
Okay. Et j'ai fait une autre série aussi avec Didier Bourdon, que j'adore.
Daron,
ouais. Et qui va, je pense, à l'automne prochain.
Vous êtes quel personnage, vous?
Moi, je joue une avocate. C'est un cabinet d'avocats et je vais... On va découvrir que j'ai un lien de parenté avec Didier Bourdon et c'est chien-chat, amouraine, notre relation.
Très bien. Quant à vous, Max Boublil, une situation délicate
reprend
des nouveautés, exactement.
Pour la 50e année.
À la rentrée. Non, mais ça fait combien de représentations?
C'est trop. Mais c'est une bonne nouvelle. S'il pouvait, il pourrait nous faire pendant 10 ans. Il voulait qu'on signe encore 2 ans et demi. On a dit
Boeing,
on va faire d'autres trucs, les gars.
Le nouveau Boeing.
Ah ouais, c'est vraiment Boeing.
Non, mais c'est un plaisir, j'imagine.
Avec Gérard Darmon et Clotilde Courau, c'est merveilleux, quoi. C'est surtout qu'on est devenu une bande de copains et vraiment moi être face à Gérard, j'étais avec Chabat dans Les Gamins, là je suis face à Gérard au théâtre, je me régale et on va la jouer jusqu'à ce qu'on meure tous sur scène.
Et vous retrouvez Gérard Darmon avec Chantal Lobby dans Les Cadeaux,
exact, qui sort au mois de décembre.
C'est ma chanson, je l'embrasse, je l'aime
trop.
Évidemment. Alors, quel est ce film, Les Cadeaux de Raphaël Moussafir?
C'est un
Christophe
film qui se passe.
Pardon.
C'est tendu, non?
Christophe Offenstein. Donc, c'est un film qui se passe pendant Noël et qui va sortir au moment de Noël. C'est très mal résumé.
Voilà,
c'est un film où c'est une famille qui se retrouve autour des cadeaux de Noël, une famille un peu dysfonctionnelle, et il y a des enfants qui sont tous partis dans des voies un peu différentes. Camille Lelouch. Je me remets ce film en tête. Voilà.
Ça va sortir, à mon avis, au moment de Noël. Donc,
ouais, ça va sortir au moment de Noël.
T'as le temps de t'entraîner pour la promo.
Ah oui, parce que là...
Bon, alors, oui, attends, j'ai pas celui-là dans la tête.
Okay, alors, revenons à Neuilly-Poissy. Si vous deviez faire le pitch, Mélanie Bernier, comment diriez-vous à des amis, à des copains? Ouais, il faut y aller parce que...
Parce que d'abord, c'est un film drôle, c'est un film assez réjouissant, c'est un film qui traite de l'actualité, mais avec un regard plutôt ludique et assez émouvant aussi. Et ce film, il traite... En fait, ce que j'aime bien dans ce film, c'est qu'il n'est pas moralisateur. C'est-à-dire que même si il parle de fraternité, même si il parle
Il encourage les communautés à se retrouver entre elles aussi, quand même.
Mais complètement. Donc il y a des messages très forts, très beaux, etc. Mais il ne vous fait pas la leçon de « il faut tous qu'on s'aime », alors qu'en fait, c'est ce que raconte aussi le film, et, mais assez joliment et assez finement, je trouve. Donc, voilà.
Max Boublil, vous, vous diriez quoi?
Moi, je dirais exactement pareil.
Non, fainéant, c'est pas beau.
Moi, je vais vous dire un truc, ce qui est très beau. Déjà, on fait les avant-premières, ça rigole beaucoup, et vraiment, les gens ressortent tous avec ce truc. Alors, je sais, quand tu le dis, ça fait un peu Miss France.
Vas-y.
Mais il y a un truc de fraternité, de bande de potes, qu'on soit juif, rebeu, catholique, oh, et qui fonctionne dans ce film, et qui se sent. Et vraiment, les gens sont touchés, parce qu'on l'a tourné avant les événements du 7 octobre, et ça a pris un écho, là. Et vraiment, dans les salles, les gens nous disent, ça nous fait du bien, c'est une boule d'oxygène, ils rigolent. Et ce message, c'est, quand tu le dis, il est simpliste, mais de fraternité, il fait du bien, quoi.
Mais vous avez raison sur la vanne Miss France, au moment des attentats du mois d'octobre, et de qualifier donc le Hamas de terroriste, j'avais fait un message sur les réseaux sociaux, et puis peu de temps après, quand il y a eu des drames sur les enfants palestiniens, j'en ai fait un autre sur les enfants palestiniens, et puis on m'a dit, ouais, quoi, tu veux être Miss France, choisis ton camp.
C'est-à-dire
que c'est l'air du temps, on peut pas dire.
La nuance n'existe pas.
On peut pas dire d'un côté libérer les otages et faisons la paix, et puis protégeons les enfants palestiniens.
Mais bien sûr, il faut le dire. Il faut le
dire. Dise tous un par un pour qui on est.
Ça va non, mais c'est ça.
Non, mais c'est pas un match de foot, quoi. Mais
on a l'impression aussi.
C'est pas genre OMPG.
Le tribunal, le tribunal populaire sur les réseaux sociaux, en tout cas.
Qui est pas le monde. Hein.
Exactement. Oui, mais c'est pour ça. Je crois que les gens sont beaucoup plus mesurés que ça en réalité.
Mais j'imagine, et puisque justement à l'intérieur, dans cette espèce de mise en abîme dans le film, la réflexion est souvent faite sur est-ce que c'est raciste, est-ce que c'est pas raciste, la question s'est beaucoup posée. Même pour vous, en lecture, la première fois que vous avez lu, vous avez dit, waouh, c'est chaud cette vanne, non?
C'est chaud, mais en même temps, c'est aussi un peu... franchement, c'est un peu vrai aussi, tout ce que raconte ce film dans les rapports, c'est ce que vous êtes en train de dire, quoi. C'est que tout le monde doit tellement s'affirmer, parfois, avoir des convictions sur tout le temps.
Choisir un camp,
qu'il y a quelque chose... Moi, c'est ce que je vous disais, je trouvais que c'était assez audacieux, et j'ai pas eu le sentiment de me dire... Oh, ça pas encore ça. Vous voyez que j'avais pas l'impression de l'avoir déjà vu, ce film. C'est-à-dire que même s'il traite d'un sujet dont on parle tous beaucoup, on est tous très concernés, etc., malgré tout, la prison, en plus en comédie, etc., j'avais pas l'impression de voir un énième sujet film.
Non, mais il y a tous les clichés, entre guillemets, y compris, vous l'avez dit tout à l'heure, le cliché de la famille blindée qui n'éduque même pas directement son enfant, mais qui a du personnel pour s'occuper de l'enfant, des nounous plus ou moins c'est déclarés ou pas pour s'occuper de l'enfant. Et qui ne s'intéresse qu'à aller chez l'esthéticienne ou lui aller chercher du liquide et du cash dans son usine à cash.
La restauration, c'est bien qu'il soit le mec arrive même plus à parler. C'est bien qu'il soit caricatural, ce type-là, parce que justement, on est au début, en vrai, on est un peu content quand il se fait démonter la gueule.
Ouais.
Parce que c'est un petit con, parce qu'il est outrancier, parce qu'il ouvre sa gueule, parce que c'est un petit gars de Neuilly, on l'en connaît, et qui parle mal et tout, et il va descendre de très haut. Et donc, on est un peu content au début pour lui. Et c'est vrai qu'on a tous des clichés les uns sur les autres qu'au début, il y a des caricatures, mais on en joue.
Et puis nous-mêmes, parfois, on peut tous être aussi une caricature nous-mêmes.
Évidemment.
Je sais pas, moi, par exemple, pour mes amis d'enfance ou peut-être certains membres de ma famille, je peux être la parisienne, la comédienne. Je veux dire, on est tous à un endroit dans nos vies. Donc,
alors et heureusement moi, qu'on peut rire. Super, hein.
Alors, si vous voulez découvrir Mélanie Bernier sous un autre jour, samedi soir sur France 2, Julia Vignali et Max Boublil ont participé aux côtés de Kinvey, Virginie Hoc, Agustine, Galiana et Magali Ripoll à une émission de Julia Vignali que j'ai vue, puisque je la produis, et j'ai rarement vu quelqu'un qui est tellement de mauvaise foi dans un jeu, mais c'est à pleurer de rire, Mélanie, comme vous êtes. À pleurer.
Je suis vraiment partagée parce que d'abord j'ai honte, donc je pense que je ne vais pas regarder l'émission parce que je suis sortie de cette émission en oubliant à un moment donné que j'étais filmée et du coup je suis vraiment
vous êtes lâchée. C'est tellement drôle,
À quel point le jeu me rend folle, mais parce que pour moi ce jeu a été de l'injustice.
Non, dites pas plus. Des excuses à présenter, Daniel Morin.
Absolument. Désolé pour tous les fans de Lisa Delmoitier qui, après la chronique de ce matin, nous ont appelé pour savoir quand commençait son spectacle en duo avec elle et son anus. Alors, les amis, c'est pas prévu pour l'instant, mais l'idée fait son chemin. Je vois ça dans le regard de notre chroniqueuse dépressive. Désolé pour tous nos auditeurs amis, tolards, qui ne se sont pas reconnus dans la description faite par Max Boublil. D'ailleurs, ils sont quelques quelques-uns à vous inviter. Max, une invitation pour un petit séjour initiation et sanitaire à Fleury-Mérogis. 15 jours en totale immersion. Vous répondez quand vous voulez.
Quartier VIP.
Désolé pour tous les amateurs d'alcool au travail qui, en écoutant notre intervenante journaliste Catherine Escrive, se sont dit « Ah bah ça y est, on a le droit de picoler au boulot. La fille, elle demande un verre de picon en pleine émission. C'est gagné. » Et puis, pour Madame Boudadi, on est content. Elle doit se sentir moins seule.
Merci Mélanie Bernier, merci Max Mobile. Elle est sortie le 8 mai au cinéma Neuilly-Poissy. Demain, Grégoire Delacour sera notre invité pour la liste 2. Mes envies, son nouveau roman, la suite donc du premier énorme succès d'il y a une dizaine, douzaine d'années. Bonne journée sur Inter. Tout de suite, les carnets de campagne. Dorothée Barba, que se passe-t-il aujourd'hui chez vous ?
Nous parlons de footing vertical aujourd'hui. Ce n'est pas de la course à pied. Le footing vertical, c'est une machine qui rend l'escalade accessible à tous. A tout de suite.
Le soir, sur France Inter, 2 heures d'infos internationales et interactives.
Le 18-20, Fabienne Synthès.
À 18h20, un jour dans le monde, le tour de la planète. En 40 minutes, avec des témoins, nos correspondants.
La population qui vient, notre vie au rythme des sirènes. Là, je crois que j'ai pas eu une journée sans une alerte antiaérienne.
À 19h20, vous intervenez, c'est le téléphone sonne.
Moi, je voulais témoigner parce que j'ai un véhicule électrique depuis 2 ans, à peu près.
Le 18-20,
c'est du lundi au vendredi, à 18h, sur Inter.
France Inter,
première radio de France.
Midi et demi sur Inter. Voici les titres du 13-14 avec Jérôme Cadet. Bonjour Jérôme.
Bonjour Dorothée, bonjour à tous. Dans le 13-14, nous parlons de ces orages très nombreux la nuit dernière dans la moitié nord. Plus de 20 000 impacts, beaucoup de dégâts, notamment dans le vignoble de Chablis. Et puis cette coulée de boue dans un village de l'Aisne, scène très impressionnante. Il y a une victime, une femme qui est morte à l'occasion de cette coulée de boue. On va revenir sur cet épisode très violent de la nuit dernière. Problème aussi, c'est beaucoup moins grave, mais ce sont toujours les vacances scolaires pour beaucoup de Français. Et certains souffrent un peu de la pluie, ceux qui sont en vacances. On parle aussi des fraudes aux aides publiques, le dispositif MaPrimeRénov particulièrement concerné. On va vous expliquer ça. Nous parlerons de Marseille et de ses cuisines qui sont en plein bouillonnement en ce moment. Il se passe plein de choses côté gastronomie à Marseille à quelques jours de l'arrivée de la flamme, bien sûr. On en parlera dans C'est la France avec Marie-Luce Ribaud. Et puis le regain d'intérêt, engouement pour les bals traditionnels. Il y en a de plus en plus, partout en France, avec de la musique traditionnelle donc. Et on va en parler à partir de 13h30, parce qu'il y a un grand week-end à Paris, à la Philharmonie, consacré à ces danses. Nous serons avec une chanteuse, avec l'organisateur également, et avec vous, bien sûr, vous venez nous parler de votre passion pour ces balles et pour ces danses. Mazurka, toutes. Polka, on peut y aller, le Pline, enfin bon, je vais m'arrêter là, mais 01 45 24 7000.
Très bien, merci Jérôme, à tout à l'heure, 13h.
France Inter. Dorothée Barba.
Bonjour à toutes, bonjour à tous. L'escalade fait partie de ce qu'on appelle les sports extrêmes. Aussi, imagine-t-on assez mal des personnes à mobilité réduite, porteuses d'un handicap par exemple, ou en surpoids, pratiquer l'escalade. Eh bien, à Colmar, on teste en ce moment un dispositif qui rend ce sport accessible, avec tous les bienfaits pour la santé que cela implique. Le footing vertical, c'est le nom de cette machine qui mérite une page de nos carnets dans le Bas-Rhin. Soyez les bienvenus.
Carnet de campagne, le journal des solutions.
Bonjour Sébastien Kuhn.
Bonjour.
Vous êtes l'un des inventeurs de ce dispositif, technicien en génie électrique. Vous êtes aussi moniteur d'escalade, ceci explique cela. Et vous avez travaillé sur le footing vertical avec deux frères qui sont tous les deux champions d'escalade. Les frères Mawen, qui ont une salle d'escalade à Colmar. L'un des deux d'ailleurs, Bassa Mawen, est déjà qualifié pour les JO de Paris. Le deuxième, Michael, espère l'être aussi très bientôt. Il faut décrire l'engin d'abord, Sébastien. Ça ressemble à un treuil, votre footing vertical, mais c'est bien plus qu'un treuil.
Effectivement, l'objectif du footing vertical, c'est de pouvoir délester tout ou partie du poids des grimpeurs. Et donc à ce titre, c'est une machine motorisée qui, à l'aide d'une sangle, permet d'alléger le poids de la personne. C'est ce qu'on appelle une machine mécatronique. C'est donc une machine robotisée qui comprend les gestes des grimpeurs et qui viennent les accompagner comme le ferait un exosquelette dans le cadre des systèmes d'aide au levage de charge.
Voilà, c'est un peu comme le vélo à assistance électrique, je crois. Si on ne pédale pas, ça n'avance pas. Là, c'est pareil, il faut fournir des efforts avec les bras.
Exactement. Et comme le vélo électrique, les vélos électriques les plus récents, si vous fournissez un petit effort, il vous accompagne proportionnellement. Et si vous fournissez un gros effort, il est capable de vous accompagner beaucoup plus fort en fonction du terrain sur lequel vous roulez.
Il existe déjà des dispositifs d'escalade hein, pour les personnes handicapées. On appelle ça de la para-escalade. Quelles sont les différences avec votre footing vertical ?
Alors, les différences entre la para-escalade et le footing vertical, déjà, les deux, c'est du para-escalade, puisque l'objectif, c'est de faire grimper des personnes à mobilité réduite ou en situation de handicap. Le para-escalade traditionnel, tel qu'on le pratique dans les clubs de la Fédération française de la montagne et de l'escalade, ben, ça consiste à accompagner les personnes à l'aide d'une force motrice manuelle. C'est-à-dire que vous avez un moniteur, systématiquement, qui est présent avec eux, qui est formé à les faire grimper et qui va fournir la force motrice, donc il va tirer très fortement sur la corde pour aider les personnes à monter, voire même remplacer complètement l'effort qu'elles vont devoir fournir afin qu'elles puissent progresser à la verticale le long de la voie. Notre machine, par contre, utilise un moteur et donc elle va comprendre le mouvement du grimpeur et venir l'amplifier. Ça veut dire que avec le footing vertical, on n'a pas besoin d'avoir la présence d'un moniteur formé au para-escalade pour que des personnes en situation de handicap puissent grimper. Ça, c'est la différence majeure.
Donc une autonomie, évidemment, très importante.
Beaucoup plus importante, effectivement, parce que dans une salle privée ou dans une salle associative, il faut du personnel formé. Et comme on le sait, ben, la formation du personnel nécessite déjà un engagement fort de la part du moniteur, mais aussi génère des coûts. Et dans le monde du privé, eh ben, le coût d'un moniteur à l'heure est quand même non négligeable. Et malheureusement, toutes les personnes ne peuvent pas se permettre de se payer une heure de moniteur pour aller faire de l'escalade.
À ce titre, disons-le, votre outil est unique au monde.
Effectivement, oui, c'est la première machine d'assistance à l'escalade motorisée au monde.
Pourquoi ce nom, le footing vertical ? Ça n'a rien à voir avec la course à pied, je crois.
Alors, ça n'a rien à voir, mais fondamentalement, quand on fait de la course à pied, on fonctionne sur un cycle aérobie. C'est-à-dire qu'en fait, on fait une activité physique qui permet de bouger son corps, mais pas dans des extrêmes. On ne va pas jusqu'à avoir des crampes. Quand on fait un footing, en fait, on a une respiration rapide et on s'inscrit en fait dans une activité physique qui correspond à ce qu'on appelle le sport santé. Donc, c'est une activité physique qui est bénéfique pour la santé. Quand on fait de l'escalade, malheureusement, surtout quand on est débutant, l'escalade, c'est un sport qui nécessite un minimum de conditions physiques. Et très rapidement, on rentre dans un effort physique qui est trop important. Grâce à la machine, on va rester dans un effort physique équivalent à un footing. Donc, voilà, ça va être beaucoup plus accessible.
Donc, vous rendez l'escalade aussi fastoche que le footing, finalement, c'est ce que vous dites.
C'est exactement ça, sauf qu'on ne met pas des baskets, on met des chaussons d'escalade.
Il paraît que l'idée, au tout départ, est née grâce aux toilettes de la salle d'escalade de Colmar, c'est vrai ?
Alors, effectivement, si on écoute les dires de Michael Mahouem, la salle d'escalade est un établissement recevant du public qui est soumis à une réglementation PMR pour les personnes à mobilité réduite qui impose d'avoir des toilettes suffisamment grandes pour pouvoir y rentrer avec un fauteuil roulant, faire demi-tour à l'intérieur. Et donc, la réglementation impose aux salles d'escalade de pouvoir accueillir un public en situation de handicap. Ce que Michael dit, c'est qu'avec notre machine, à partir du moment où le footing vertical existe et on peut faire grimper des personnes en situation de handicap, nous, on a envie d'imposer aux salles de faire grimper les personnes en situation de handicap. Parce qu'aujourd'hui, elles peuvent utiliser les toilettes pour reprendre effectivement l'anecdote. Mais qu'est-ce qu'elles peuvent faire d'autre dans la salle d'escalade ? Elles peuvent simplement regarder les autres grimper et malheureusement, elles ne peuvent pas profiter de cette activité.
Alors, ce qui est intéressant avec votre footing vertical, c'est qu'il s'adapte au profil, au handicap, aux différentes difficultés des gens. Hein. C'est vraiment une machine sur mesure, finalement.
C'est ça. En fait, elle est en capacité de comprendre les mouvements du grimpeur, mais aussi de tenir compte de ses pathologies ou de ses handicaps. Une personne en situation d'obésité, elle a beaucoup de force en réalité parce qu'elle porte son poids toute la journée. Alors qu'une personne tétraplégique n'a plus aucune force dans les membres inférieurs, voire même dans son bassin, comme une personne paraplégique. Et donc, il faut que la machine puisse fournir de l'assistance au bon moment. Pour une personne qui a une sclérose en plaques, les besoins en assistance ne viennent pas au même moment que pour une personne qui est paraplégique, par exemple.
Quelle est la raison d'être, finalement, de cet outil? Est-ce que c'est un outil de divertissement, d'activité ludique pour les personnes handicapées? Ou est-ce qu'il s'agit de sport santé, d'un outil de rééducation aussi?
La fonction première pour laquelle on souhaite mettre cet outil à disposition, c'est l'inclusion. C'est-à-dire, c'est de permettre à des personnes qui n'auraient pas l'autonomie de pouvoir faire de l'escalade, de découvrir l'escalade au sens loisir du terme, au sens plaisir du terme aussi, parce que c'est un sport qui va générer de l'endorphine, donc l'hormone du bonheur, parce que tout simplement, on bouge son corps et ça fait du bien. C'est aussi un sport qui va générer de l'adrénaline, parce que imaginez-vous à 15 mètres de haut, en général, son subconscient est plutôt en train de vous dire ah, « attention, on est un petit peu haut là, qu'est-ce qui se passe ?» Et donc, vous avez toute cette adrénaline qui vient s'ajouter. Mais pour les personnes en situation de handicap, c'est autre chose aussi. Eh ben, c'est un regard sur soi, c'est aussi le regard des autres qui change. Parce que quand on est en fauteuil roulant, on a tendance à voir le monde d'en bas. D'ailleurs, quand on discute avec une personne, on est assis et on est rarement au même niveau que les autres. Avec le footing vertical, eh ben, ils explorent le monde de la verticalité. Et du coup, ils peuvent enfin voir le monde d'en haut. Et ça m'arrive souvent de tenir des conversations avec des personnes qui sont paraplégiques ou tétraplégiques et de tenir ces conversations debout avec eux. Parce que la machine leur permet d'avoir cette position debout. Et l'autre jour, on me faisait la remarque. On m'a dit, tu te rends compte que depuis que je suis en fauteuil roulant, j'avais plus tenu une conversation debout avec quelqu'un.
Ça n'est pas rien.
En termes de regard sur soi, c'est fantastique. Et puis, on voit aussi que le regard des autres change parce qu'on voit des personnes en situation de handicap qu'on peut penser finalement amoindries. Et là, on se rend compte qu'elles grimpent comme tout le monde. Et on peut venir grimper à côté.
Mais c'est aussi un outil de soin, même si ça n'est pas la priorité.
Alors, c'est vrai. On s'est rendu compte dans le parcours de vie de cette machine qu'on pouvait apporter plus que du plaisir. Et qu'on était en capacité de proposer d'autres services en matière de rééducation, que ce soit de la rééducation sur des pathologies neuro ou de la rééducation visuelle, parce que il faut bien utiliser ses yeux quand on grimpe. Ça peut être de la rééducation sensorielle, parce que les prises d'escalade sont toutes différentes. Et du coup, quand on va venir les attraper, on travaille sur la préhension et la motricité fine des doigts. Mais pour une personne qui est âgée, l'escalade, c'est aussi le travail de l'équilibre, de la coordination. Apprendre à gérer un déséquilibre, potentiellement une chute, et surtout pouvoir l'éviter. Donc, on a tout un volet sport santé qui est très, très intéressant à exploiter. Et puis, un volet rééducation aussi. On est d'ailleurs en train d'intégrer un médecin rééducateur dans notre équipe afin de pouvoir explorer ces voies-là.
Voilà, vous avez prévu de commercialiser votre footing vertical l'année prochaine. Vous en êtes à la phase de test encore. Est-ce qu'il y a un cobaye, si j'ose dire, un grimpeur ou une grimpeuse qui utilise déjà cet outil et dont vous avez envie de nous parler en particulier?
Alors oui, on a même plus qu'un cobaye parce que en fait, chaque handicap est vraiment spécifique. Donc c'était particulièrement important pour nous de monter une équipe d'ambassadeurs, des personnes qui soient d'accord pour tester la machine, potentiellement même parfois se faire un petit peu secouer parce qu'on est en train d'affiner les programmes et on cherche que ce soit le plus confortable possible. Nous, on estime qu'on a atteint notre objectif quand la personne grimpe et nous dit « j'ai pas l'impression d'être assisté par une machine ». Oui. Là, on sait qu'on a atteint notre objectif. Et du coup, on a un ambassadeur paraplégique, on a un ambassadeur tétraplégique, on a un ambassadeur qui a une sclérose en plaques, on a un ambassadeur senior, plus de 80 ans. Ouais. Voilà. Et comme ça, on a pas mal d'ambassadeurs à qui on fait appel. On a aussi Camille qui nous suit depuis très très longtemps. Elle a connu les premières versions de la machine. Elle est arrivée chez nous, elle avait une dépression nerveuse. Elle avait subi une grosse opération à la cheville qui avait mal tourné. Et depuis cette opération, elle se déplace en fauteuil roulant et elle souffre en permanence. Et donc, le footing vertical, ça permet à la fois, avec le concours de ses professionnels de santé, d'avancer sur la rééducation de sa cheville, de lui procurer du plaisir et de l'intégrer dans un environnement où elle trouve d'autres jeunes de son âge et où elle peut avoir des interactions sociales qui sont beaucoup plus importantes parce que Camille, elle ne va plus à l'école, elle fait l'école à la maison.
Ça vous rend fier, j'imagine, ce footing vertical?
Ah oui, ça, quand la personne redescend, vous dit qu'elle sent les battements de son cœur dans sa poitrine et qu'elle se sent vivante. Effectivement, ça fait énormément de bien. J'ai souvent du mal à retenir, j'ai les yeux un petit peu humides.
Mmh. Ça, c'est le talc qu'on met sur les mains, bien sûr, qui fait rougir les yeux.
Voilà, ça pique les yeux. Non, mais ça fait, humainement parlant, c'est une expérience fantastique. Mmh. Et on voit qu'on peut leur apporter énormément à tous ces publics. Donc, si tu pouvais ne faire que ça et partager cette expérience en permanence, eh ben, j'hésiterais pas à le faire, à continuer comme ça.
D'ailleurs, c'est pas du talc, c'est de la magnésie. Vous m'avez pas corrigé, vous êtes sympa.
C'est vrai. C'est de la magnésie, effectivement, ouais. Ce qui est important maintenant pour nous, c'est de finaliser tous les aspects techniques, technologiques et normatifs de la machine, pour qu'elle puisse demain trouver facilement sa place dans toutes les salles d'escalade et que les personnes à mobilité réduite sachent qu'elles puissent pousser n'importe quelle porte de salle d'escalade et y trouver une activité qui est plaisante.
Voilà, le footing vertical actuellement en test à Colmar est bientôt disponible, on l'espère, pour toutes les salles qui le souhaiteront. Merci beaucoup Sébastien Kuhn.
Merci à vous.
Bonne journée, au revoir.
Au revoir, bonne journée.
France Inter. Carnet de campagne.
Et Colmar est bien dans le Haut-Rhin, contrairement à ce que j'ai dit au tout début de l'émission. Mes excuses, le Haut-Rhin qui est en bas, hein, comme chacun sait, tout au sud de l'Alsace. Je voulais aussi vous parler d'un message reçu dans la boîte mail de l'émission. Message venu de Ferrette, village de 800 habitants, tout au sud du Haut-Rhin, juste à côté de la Suisse. Hugues nous annonce la création de l'Arcabas, association qui s'est installée dans l'ancienne école de Ferrette. Arcabas, c'est le nom de l'artiste qui a peint la fresque installée sur le fronton de l'école. Cette association porte plusieurs projets, notamment une école de musique baptisée le Bœuf sur le Toit et une chaîne de télé locale qui s'appellera la Ligne Sungo. Tout cela est en train de prendre forme, écrit cet auditeur. L'école de musique sera prête à la rentrée 2024. Le plateau télé et sa régie seront opérationnels dans quelques jours et l'équipe espère pouvoir se renforcer pour créer un arcabar qui servira de base à ce nouveau lieu de vie. Association Arcabas avec une arrobase à la place du deuxième A. C'est donc à Ferrette dans le Haut-Rhin. Et ne quittons pas l'Alsace. Voici à présent le jeu des 1000 euros sur France Inter. Il est 12h46. Nicolas Stoufflet.
Chers amis, bonjour. Nous sommes à Mauche, dans le département du Haut-Rhin. Quel est l'orthographe du nom de ce village? Ça fait sourire monsieur le maire qui est au premier rang. Alors Mauche, cela s'écrit M2OSCH. Si vous nous suivez depuis le début de la semaine, vous l'aviez peut-être déjà noté. M2OSCH, et on dit plutôt Mauche. À l'ouest de Mulhouse, enfin un peu plus de 30 km à l'ouest de Mulhouse. C'est un village qui fait partie du parc naturel régional des Vosges, 1642 habitants. Et des collines. L'une d'elles, c'est la colline de la Vierge, dont on a parlé les jours précédents. Un autre sommet s'appelle la colline du Bûcher, un bûcher construit par les conscrits de l'année. C'est une particularité des environs. Le samedi le plus proche de la Saint-Jean et du solstice d'été, on met le feu au bûcher, qui est une pyramide de rondins d'épicéas qui peut atteindre 16 voire 18 mètres de hauteur. Et en prenant le chemin forestier qui mène sur les crêtes, on peut s'arrêter un instant, et on s'arrête forcément parce que c'est une beauté naturelle, devant une très belle cascade, la cascade de la Roche aux Bébés, une chute d'eau également appelée cascade du Boubalafels. Je fais attention à la prononciation. Une légende ancienne raconte que les couples infertiles se rendaient de nuit sur les lieux, touchaient la roche et l'eau de la cascade, ce qui permettait d'attendre un événement heureux assez rapidement. Bon, ça peut être une idée pour le fameux réarmement démographique. En Alsace, un nouveau jeu des 1000 euros avec un duo au micro, Carmen Vincent et Théo Rotolo. Bonjour Carmen.
Bonjour Nicolas.
Vous êtes venu du département voisin des Vosges.
Oui.
Département des Vosges, vous habitez ?
À Fraisse-sur-Moselle.
Vous habitez une jolie maison,
oui.
Vous avez un jardin.
Oui, je m'occupe de mes fleurs quand c'est la saison.
Ouais, bah ça arrive. Et vous vous laissez vivre, Carmen.
Oui.
C'est ce que vous m'avez dit avant le début de l'émission. Et moi j'aime bien ça, j'aime bien l'idée qu'on se laisse vivre.
Oui. Je fais quand j'ai envie, quoi.
Alors, outre le jardin, que faites-vous, par exemple? Qu'est-ce qui peut vous attirer?
Je marche quand même un peu, je fais du vélo, je m'occupe de mes chats.
Combien de chats avez-vous?
Deux.
Ils vous laissent dormir?
Ils dorment dans mes bras, alors ils me laissent dormir.
D'accord. Ils attendent que vous soyez réveillés pour se réveiller eux-mêmes. Ah bah c'est bien, alors là vous avez de la chance. Carmen avec Théo Rotolo. Bonjour Théo.
Bonjour Nicolas.
Vous habitez Steinbach ?
Oui, c'est ça.
Vous venez de commencer un nouveau travail ?
Oui, tout
à fait. Vous avez 23 ans, je le précise.
C'est ça, j'ai terminé mes études en juin dernier et là je commence un nouveau travail. C'est Compliance Officer. C'est chargé de conformité aux réglementations européennes dans le secteur bancaire sur des questions de sécurité. Voilà, c'est un peu technique, mais ça me plaît et ça va me permettre de me déplacer puisque c'est un travail qui est à Milan en Italie. Donc à partir de la semaine prochaine, je n'habiterai plus à Steinbach.
Et vous allez habiter Milano, très belle ville avec une superbe cathédrale. Théo Rotolo, Carmen Vanson, sélectionnés pour jouer avec nous sur France Inter aujourd'hui. Première question bleue, question carte postale. Nous la devons à Jean-Michel Guillaume à Verès, dans le département d'Indre-et-Loire. Quel château de Sologne a inspiré Hergé pour dessiner le château de Moulinsart ? Château de la Loire, donc.
Moi, je l'ai. Je pense que c'est le château de Chenonceau.
Ce n'est pas le château de Chenonceau.
Giverny ?
Ce n'est pas le château de Giverny non plus.
Cheverny.
Ah, c'est bien le château de Cheverny, Carmen. Cheverny, Loire-et-Cher. Question bleue aussi, question envoyée sur franceinter.fr par Marion Gerber de Strasbourg. Comment appelle-t-on une jeune vache qui n'a pas encore eu de veau ?
Une genisse.
Une genisse, vous dites ?
Oui.
Une génisse, peut-être ?
Oui. Dans les veaux, j'en dis genisse.
Ah oui, d'accord.
Une génisse, quoi.
Non, mais c'est pour ça que je vous posais la question. Oui, oh, oui, mais on peut dire genisse ou génisse. Une génisse. Question bleue de la part de Marie-Joseph Merdi du Finistère. Il faut trouver le nom d'un établissement public français qui a son siège à Bry-sur-Marne, à l'est de Paris, dans le département du Val-de-Marne, créé en 1975. Le but principal de cet établissement public français est la sauvegarde, la valorisation et la transmission du patrimoine audiovisuel. Quel est le nom de cet établissement ?
Le CNC ?
Le CNC, ce n'est pas cela.
L'INA.
Télévision Lina. Et radio, c'est l'INA, l'Institut National de l'Audiovisuel. Maintenant, les questions blanches. Voici celle envoyée par Cédric Guiton de Lanvaudan dans le Morbihan. Jusqu'en février 1990, quel nom était donné à l'actuel département des Côtes d'Armor ?
L'Armorique ?
L'Armorique, ce n'était pas le nom du département qui s'appelle maintenant les Côtes d'Armor.
Les Côtes du Nord.
Oui, Carmen, c'est ça. Les Côtes du Nord, changement de nom en 1990. Il arrive que des départements changent de nom. Il est question, par exemple, que le département des Pyrénées-Orientales, on en a parlé il y a quelques temps, change de nom aussi. C'est encore en discussion. Autre question blanche de Thomas Chuilon, qui habite Urmat. Dans le Bas-Rhin, quel est le lac qui a inspiré le poète Lamartine pour son chef-d'œuvre intitulé justement, son poème intitulé Le Lac, écrit en 1817 ? Parce que Lamartine a séjourné plusieurs fois dans ce secteur.
Le lac d'Évian ?
Ce n'est pas le lac d'Évian.
Le lac de Thonon ?
Pas le lac de Thonon.
Non, le lac de Lausanne ?
Non plus.
Oh purée, je sais ce qu'il y a de pire.
En Savoie.
Lac de Genève, Neuchâtel.
Ce n'est pas Neuchâtel, ce n'est pas Genève non plus.
Oh, je sais.
Thonon et Vian, non.
Toujours pas. Question reposée tout à l'heure. Dans l'immédiat, Carmen et Théo, la question rouge. D'Isaline Ruiz à Clarensac dans le Gard. Seules deux races de vaches produisent un lait autorisé pour la fabrication du Beaufort, justement, fromage savoyard. Lesquels ? Quelles sont les deux races de vaches autorisées, si on peut dire, pour le lait servant à la fabrication du Beaufort, pour avoir droit à l'appellation Beaufort ?
On va faire les races de vaches, la Salers.
Ah non, parce que là, ce sont vraiment des races des Alpes.
Il y en a une, je sais, je sais plus.
Alpine, non, je ne sais pas.
Ce n'est pas le nom de cette race de vache ou de l'une des deux. Carmen et Théo. Deuxième partie du jeu, deuxième chance, je vous repose la question. Il faut trouver le nom d'un lac. C'est le lac qui a inspiré le poète Alphonse de Lamartine, notamment pour son chef-d'œuvre, ce poème intitulé « Le lac ». Quel est le nom du lac en question qui se trouve en Savoie, pas loin d'Aix-les-Bains ?
Le lac d'Annecy ?
Ce n'est pas le lac d'Annecy. Ah, je vais tendre le micro à monsieur le maire qui est au premier rang. Bonjour monsieur.
Bonjour Nicolas.
Merci d'abord de nous recevoir chez vous, cher José. Quel est votre patronyme, José ?
Schrieffenegger.
Préférez que vous le prononciez vous-même. José, quelle est votre réponse ?
Je pense que c'est le lac du Bourget.
Le lac du Bourget. On peut donner un t-shirt France Inter à monsieur le maire ? Oui, t-shirt France Inter. Pour cette réponse, en effet, le lac du Bourget, c'est ce lac qui a inspiré Lamartine pour son poème magnifique intitulé justement... Ça tombe bien, le lac. Et 30 euros pour Thomas Chuillon qui habite Urmat dans le département du Bas-Rhin. Je reviens à cette question rouge, toujours au nom d'Isaline Ruiz à Clarensac dans le Gard, question postée sur franceinter.fr. On reste en Savoie, seules deux races de vaches produisent un lait autorisé pour la fabrication du fromage au lait cru, le Beaufort. Quelles sont ces deux races de vaches ? Deux réponses. Pas bon. Plus.
L'abondance.
Ah, il y a bien l'abondance, Carmen. Et quel est l'autre ?
La tarentaise.
La tarentaise, bonne réponse. Tarentaise ou tarine. L'abondance d'un côté, tarentaise ou tarine de l'autre. Les races de vaches pour la production du lait autorisé pour la fabrication du Beaufort. Vous avez répondu à 5 questions sur 6. Vous pourrez donc peut-être tenter le... En passant par le repêchage, quelle est votre décision ?
Banco.
Banco, d'accord. Il y a une hypothèque, c'est le repêchage. Quelle est cette voix ? Un enregistrement qui date de 1961.
Vous savez, je crois pas seulement en Dieu, je crois aux hommes, je crois à l'être humain, je crois à l'arbre qui pousse, je crois à l'amitié, je crois à l'amour, je crois à tout. Je crois, tout simplement. Je pense qu'on est tous comme ça, on cherche tous. Mais je crois maintenant, une voix en moi me dit que je suis dans la bonne voie. J'ai peut-être gravi un échelon, et je crois que quand on l'a gravi, on est beaucoup plus heureux dans la vie.
Est-ce Edith Piaf, Juliette Gréco ou Patachou ? Vous l'avez entendu, vous avez reconnu sa voix ?
Oui, c'est Edith Piaf.
Edith Piaf, exact ! Et la question banco maintenant.
Pour envoyer vos questions au jeu des 1000 euros, rendez-vous à la page de l'émission sur franceinter.fr.
Question de la part de Jean-Yves Noblet qui habite Vineuil dans le Loir-et-Cher. Dans quel roman Napoléon est-il un cochon ? Question posée comme ça.
Est-ce que tu sais, toi ? Il y en a qui savent. Tu l'as lu ?
Je sais qu'il y a des cochons qui sont dans ce livre.
Ça, si tu penses que c'est ça, moi, je sais pas.
Moi, j'aurais dit Orwell, La ferme des animaux.
Mais c'est dans le roman de George Orwell, le Britannique, La ferme des animaux, où les cochons prennent le pouvoir et dominent les autres animaux. Un court roman sur la dictature et le totalitarisme de George Orwell, roman court paru en 1945. Banco gagné, voulez-vous aller plus loin avec le...
Super.
Super. Super Banco. Une question de Philippe Hakoun qui habite Avon en Seine-et-Marne. Quel est l'auteur latin surnommé l'arbitre des élégances qui vécut sous Néron et à qui on doit un roman gigantesque dont il ne reste que des fragments intitulé Le Satyricon où il peint avec verve les milieux décadents de la Rome antique. Quel est cet auteur latin surnommé l'arbitre des élégances ?
Satyricon, ça me dit quelque chose.
C'était mon bac de latin.
Mais il faut que ça revienne là.
Bon, ça fait pas si longtemps, alors ça pourrait revenir.
Non, non, le Satyricon. Ah putain,
Bon, pour être précis, il est attribué, hein, ce roman satirique en latin est attribué à cet auteur. Mais bon, par convention, on dit que c'est un roman de.
Allez, vas-y.
Pétrarque. Plutarque.
Plutarque non plus. Vous n'avez droit qu'à une réponse Pétrone. De toute façon. C'est Pétrone, oui. C'est Pétrone. Ah oui, mais je suis désolé. Une seule réponse avec le super banco, comme vous le savez. C'est Pétrone, écrivain romain, 1er siècle, en effet, de notre ère. Pétrone, question super banco rapportant à Philippe Hacoun à Avon, en Seine-et-Marne, 45 euros. Carmen de Fraisse-sur-Moselle et Théo de Steinbach sont avec nous et gagnent le récepteur radio France Inter FM et DAB+, ainsi que le livre des chroniques d'André Manoukian, Les pouvoirs extraordinaires de la musique. Bonne journée et à demain, si vous le voulez bien.
Nicolas Stoufflet et Yann Paillet vous attendent aujourd'hui dans l'Aisne, à la salle des fêtes de Fer en Tardenois, pour des enregistrements du jeu des 1000 euros à 17h et 18h30. Demain, ça se passe à Auville, dans l'Eure, aux mêmes horaires. Et samedi, à Bernières-sur-Mer, dans le Calvados.
De plus en plus jeune, le portable devient une addiction.
Pour les enfants.
Comment dompter les écrans ?
Hey ! À Radio France, on a la solution. Les podcasts jeunesse. Oli.